L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le très honorable et cher ami général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française. Avec lui, en sa qualité d'observateur international indépendant des élections présidentielles russes dans la région de Saint-Pétersbourg, nous évoquerons les conditions du déroulement du scrutin, analyserons les résultats et leur portée nationale et internationale. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Général Dominique Delavarde, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Je suis content d'être parmi vous.
Merci beaucoup, tout l'honneur est pour nous. Alors, vous avez été invité comme observateur international indépendant pour observer le déroulement des élections. Donc, on a le processus de vote qui a pris fin le 17 mars à 21h dans l'élection présidentielle russe de 2024. Vladimir Poutine est élu à 87,30% de voix et un taux de participation de 77%, presque 80% des inscrits, selon le bilan annoncé par la Commission électorale centrale. Alors, vous avez été invité en tant qu'observateur international indépendant à surveiller le bon déroulement du scrutin dans la région de Saint-Pétersbourg. Je le répète encore. Alors, dans quelles conditions vous vous êtes acquitté de votre tâche et comment jugez-vous les conditions dans lesquelles se sont tenues ces élections ?
Alors d'abord, nous avons eu l'occasion de visiter à peu près 8 bureaux électoraux dans lesquels nous avons pu poser, alors dans Saint-Pétersbourg et dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, donc dans l'agglomération qui fait quand même 5 millions d'habitants, nous avons eu l'occasion de discuter non seulement avec les gens qui tenaient les bureaux, mais également avec les électeurs qui, quand ils venaient voter. Ça s'est passé donc très bien. À mon avis, c'est organisé au moins aussi bien que chez nous, si ce n'est mieux, puisqu'on surveille au moins l'urne centrale en permanence avec des caméras, ce qui évite d'éventuels bourrages d'urnes, et ce qui évite également ces bourrages d'urnes, c'est l'identification de chaque bulletin de vote par un QR code. Ouais. Donc, on sait quels sont les bulletins qui sont de vrais bulletins et les bulletins éventuellement...
Donc, est-ce que vous pouvez un peu détailler cet aspect-là ? Parce qu'il me semble que c'est la première fois que l'on passe à ce genre de sécurisation des bulletins de vote.
Oui, bon, si vous voulez, le bulletin de vote, sur le même bulletin de vote, vous avez les quatre noms. Donc, l'électeur prend le bulletin qui lui est remis par l'assesseur de la commission électorale. Et après avoir signé et émargé le carnet de liste, sa liste électorale, quoi, on va dire sa place sur la liste électorale, il va dans l'isoloir et il coche juste la case du candidat qu'il souhaite... qu'il souhaite prendre. Ce bulletin est marqué à l'arrière par un QR code et il est mis dans une machine, donc il est comptabilisé avec le QR code, ce qui évite éventuellement des bulletins qui arriveraient par la suite avec rien du tout, sans QR code. On est sûr que ce bulletin n'a été mis qu'une fois. Voilà.
D'accord. Et par rapport aux conditions de l'accomplissement de votre tâche, est-ce que vous étiez libre ?
Ah oui, on a été libre de poser toutes les questions qu'on voulait. On était nombreux. Alors c'est intéressant de voir que la Russie a principalement eu des observateurs qui venaient du sud global, c'est-à-dire de la multipolarité. Beaucoup d'électeurs, de gens qui venaient observer d'Amérique latine, beaucoup de gens d'Amérique latine, beaucoup de gens d'Afrique, beaucoup d'Africains. Hein. Dans mon groupe, il y avait un Namibien, il y avait des Nigériens, il y avait des Maliens, il y avait un Malgache, et puis il y avait des Sud-Américains, hein, donc le Brésil, bien sûr, hein, l'Argentine aussi, et d'autres pays, l'Équateur. Il y avait des pays d'Amérique du Sud. Donc, moi, ça m'a agréablement surpris de voir qu'un pays du Nord acceptait donc de se faire contrôler par des gens venus du Sud global. Alors, pas que du Sud global, il y avait également des Européens, hein, on était plusieurs, hein, mais principalement du Sud global. J'attends avec impatience que la France et que les États-Unis acceptent que l'on contrôle leurs élections avec des gens venus du sud global. Oui. Hein, on verra quelles seront les opinions des gens qui viendraient contrôler nos élections. Ça pourrait être intéressant.
D'accord. Alors, les médias occidentaux, notamment francophones, n'ont pas attendu les résultats des élections pour commencer à parler de fraude en vue de le discréditer, notamment en attaquant le pourcentage de participation à ces élections. J'ai vu, par exemple, BFM TV montrer des bureaux vides, et donc ils expliquaient que les Russes ne sont pas allés voter. Donc, ce qui sous-entend le résultat qui sera... Plus tard annoncé, attendez-vous à ce qu'il soit, ça sous-entend, attendez-vous à ce qu'il soit trafiqué, ce qu'il soit, pas réel. Alors, qu'avez-vous à dire par rapport à ces allégations Et puis, quel est votre jugement sur les garanties de régularité des élections mises sur place par le gouvernement russe et surveillées par la Commission centrale électorale dont vous faites vous-même partie?
Alors, d'abord, il faut savoir que l'Occident, d'une manière générale, critique toutes les élections qui ne portent pas au pouvoir des candidats qui leur soient favorables. Pas seulement en Russie, dans tous les pays. En Syrie, c'est pareil. Hein, quand on élit Bachar el-Assad, en Iran, c'est pareil. Donc, tous les pays qui élisent des chefs ou des chefs d'État qui ne soient pas favorables à l'Occident, il y a forcément fraude. Et l'Occident, lui, évidemment... ne fraude jamais. Bon, évidemment, c'est une farce. Alors, ce que je vais vous dire à propos des élections russes va essayer de démentir ces allégations. La première chose, c'est d'abord que le scrutin ne se déroule pas sur un jour, mais sur 3 jours. Donc, quand ça se déroule sur un jour, évidemment, il y a la queue devant les bureaux pour voter parce que le créneau de vote est très court.
Oui.
Là, les créneaux de vote ont été allongés, donc non seulement multipliés par 3, mais les bureaux étaient ouverts de 8h du matin à 20h le soir. Hein, donc c'est énorme. Et donc la durée du vote est allongée, ce qui facilite bien sûr la participation et qui encourage la participation, parce que les gens peuvent, par exemple, ceux qui veulent partir en week-end le samedi et le dimanche, ils peuvent voter le vendredi. Hein, ce qui n'est pas le cas en Europe, quand le vote a systématiquement lieu le dimanche et dans lesquels les gens préfèrent partir à la pêche que d'aller voter. Là, ce n'est pas le cas. La participation, et j'ai pu le contrôler moi-même, dans chacun des bureaux, j'ai fait retourner les listes électorales page par page pour voir les signatures. Puisque quand on nous distribue un bulletin, il faut donner la signature, il faut signer sur la liste électorale. Donc on voit très bien, juste à voir, de même de loin, on voit le nombre de signatures et le nombre de cases vides. Donc le pourcentage de plus de 70% est avéré sur les 3 jours. Et j'ai vu monter au fil des jours, parce que j'ai fait ça un peu tous les jours, j'ai vu monter ce taux de participation. Donc aller raconter que le taux de participation est faux, c'est encore une affaire de l'Occident collectif qui a l'habitude de ça, hein, pour tous les pays dont les dirigeants ne leur conviennent pas. Hein. Voilà. Oui. Mais bien sûr, eux, ils sont toujours élus dans la plus parfaite régularité. Hein. Je veux parler, par exemple, de M. Biden, élu dans la plus parfaite régularité.
Bon, on peut aussi dire George Bush.
Voilà. Hein. Et puis, bien sûr, l'Occident, par définition, a raison, a toujours raison, moral. On a une moralité telle qu'il ne peut pas y avoir de fraude chez nous, ça ne peut pas exister. Et n'empêche que, aux États-Unis, par exemple, le vote par correspondance de 50% des Américains aux dernières élections présidentielles était tout simplement énorme et favorisait évidemment la fraude. Puisqu'en France, le vote par correspondance a été interdit parce que, justement, c'est un vote, un type de vote qui favorise la fraude. Mais enfin, bon, l'Amérique ne fraude jamais et la France ne fraude jamais par définition. Mmh. Nous sommes des peuples d'exception qui ne fraudons, dans lequel la fraude ne peut en aucun cas exister. Quant au pourcentage de vote pour Vladimir Poutine, alors là, c'est très intéressant de voir pourquoi ce pourcentage a été aussi élevé. Mmh. En 2018, lors des dernières élections présidentielles, les sondages préélectoraux donnaient Poutine à 64%.
Oui.
En 2018. Mmh. Et le vote se passait en un jour, à l'époque. Mmh. On a essayé de s'ingérer en montant une affaire de toutes pièces qui s'appelle l'affaire Skripal, dans laquelle on a bien sûr accusé Poutine d'avoir quasiment tué Skripal là, sur la place d'un village britannique. Hein. Mmh. Et donc, on a essayé de s'ingérer dans l'élection pour faire baisser son score. Le résultat a été inverse. Les Russes, ça les a fait rire, ça les a fait rigoler, et au contraire, ils en ont rajouté une couche pour Vladimir Poutine. Au lieu d'avoir 64% prévu par les sondages, grâce à cette mauvaise affaire, cette fake attaque contre le dénommé Skripal, le taux a bondi jusqu'à 76,7% en 2018. C'était déjà 76,7%. Cette année, même chose. On a essayé de faire de l'ingérence dans les élections russes pour faire baisser le score de Poutine. Il faut absolument qu'il baisse. Et on a inventé encore deux nouvelles affaires, hein, l'affaire Navalny, bien sûr, où ce malheureux est mort, et c'est presque Poutine qui l'a étranglé, hein, c'est ce que nos médias nous ont raconté. Et ce que notre président, dans un récent discours, a raconté, hein, c'est Poutine qui tue ses opposants, en gros. Et c'est ce qu'il nous a dit, dans le dernier discours qu'il a fait. Sous-entendu, nous, on n'a rien contre les Russes, mais on a quelque chose contre ce meurtrier qui est votre président. Oui. Donc, ne l'élisez pas. Ça, c'est une première ingérence.
D'ailleurs, son dernier entretien, il l'a fait justement la veille des élections.
Oui, la veille des élections, il a fait ça. Donc, c'est de l'ingérence. Et la deuxième, ingérence avec l'affaire Navalny et ingérence avec ce discours qui s'est fait à la veille des élections russes. Ce genre de manipulation grossière ne passe pas dans la population russe. Hein. Les Russes, eux, regardent les faits et ont confiance dans un président qui a reconstruit le pays depuis l'an 2000 et qui les protège aujourd'hui. Hein. C'est ce que nous ont dit les électeurs. Poutine n'est peut-être pas parfait, mais il protège la Russie contre les Occidentaux qui ne veulent pas du bien à la Russie. Et donc, le score exceptionnel, on va dire, de 87%, 87, quelque chose, est tout à fait justifié. Quand la nation se regroupe autour de son chef, quand la nation croit en sa cause, et la Russie croit en sa cause, elle se regroupe autour de son chef, Et elle le porte, elle le soutient et elle le porte au pouvoir.
Hein, c'est... En plus qu'il a réussi le pari de maintenir une économie viable, une sécurité viable.
Exactement, et... le pouvoir d'achat des Russes ne se détériore pas, bien au contraire. Hein. J'ai pu visiter tous les grands magasins, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, où je suis passé. J'ai visité, la Russie a une vie économique qui se passe bien. Les Russes dans la rue sont plus souriants qu'à Paris, que les Français à Paris, ça c'est clair. Hein. Les Français sont beaucoup plus moroses. Hein, quand on les regarde à Paris, allez dans le métro à Paris, vous allez voir un peu la tête des gens. Hein, il est clair que à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, en tout cas dans les villes où j'ai eu l'occasion de passer, les visages sont beaucoup plus ouverts et les gens me paraissent à la fois sereins et confiants dans l'avenir et confiants donc dans ceux qui les gouvernent, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous en Europe.
C'est dans la même lignée de ce que vous voulez développer, général de Lavarde. Quand on compare, Poutine est arrivé officiellement à la présidence de la République en 2000. Et on est en 2024. Donc, quand on compare ce qu'il a pu réaliser par rapport à la situation qu'il a trouvée en accédant au pouvoir, ce qu'il a pu réaliser sur le plan politique, sécuritaire, économique, social, jusqu'à l'année de 2024. Et quand on le compare à ce que ses homologues occidentaux ont fait depuis 2000 jusqu'à 2024, je crois que les flèches vont dans le sens inverse.
Ah oui.
Et donc la question, la Russie, c'est un pays souverain. Le peuple russe est un peuple souverain. Est-ce qu'il n'a pas le droit de choisir le mode politique, le système politique qui doit le... Et le président pense apte justement à défendre ses intérêts.
Non, l'Occident a raison. L'Occident a toujours raison. Attention, et l'Occident, c'est au-dessus du reste du monde. C'est l'hégémonie bienveillante. La moralité impeccable, on pourra en reparler peut-être un petit peu plus tard sur Gaza, mais l'Occident, c'est l'éthique parfaite. Hein. Et donc, le gouvernant qui ne correspond pas aux standards de l'Occident, c'est un mauvais dirigeant, quoi. Il faut être soumis aux valeurs occidentales qui sont bien sûr supérieures à toutes les autres, notamment ce qu'on appelle le progrès, le LGBTisme, le wokisme, toutes ces choses nouvelles et très intéressantes d'ailleurs, certainement, mais qui ne correspondent pas aux aspirations du reste du monde. Donc l'Occident voudrait imposer ses valeurs prétendument universelles au reste du monde, et ça ne peut pas passer et ça ne passera pas. Ça ne passera
pas. Vous avez connu la Russie il y a 20 ans déjà.
Exact. Oui, j'ai fait un voyage en Russie
donc,
il y a 20 ans.
Donc, 10 ans, vous êtes venu à peu près quand Poutine est arrivé au pouvoir ou bien avant. Alors, comment vous jugez la situation de la Russie par rapport à la situation que vous avez trouvée il y a 20 ans en arrière et aujourd'hui?
Il y a 20 ans, c'était la nuit. C'était nuit et brouillard. La Russie était dans la panade, on va dire, dans la difficulté. Les gens étaient moroses à cette époque-là, les Russes étaient moroses, et on n'avait pas une grande image et une belle image de la Russie. Bon, aujourd'hui, c'est clair que tout a changé. Tout a changé, l'économie se porte bien, plus 3,6 de croissance cette année, reconnue par les organismes internationaux. Donc, les choses se passent plutôt bien pour la Russie, alors que, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, pour l'Occident, ça n'est pas pareil. En clair, Poutine a rebâti son pays en partant de très bas, en 2000. Il a remonté son pays, il l'a préparé d'ailleurs aux épreuves qu'il pouvait avoir, et notamment au bras de fer qui intervient aujourd'hui. Poutine ne part pas dans ce bras de fer sans atout. Et les atouts, il se les est construits au fur et à mesure, depuis 2000. Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, il a préparé son jeu, sa main, et il est aujourd'hui capable de jouer un jeu avec beaucoup, beaucoup d'atouts face à un Occident qui, lui, a perdu les atouts qu'il avait il y a 30 ans. Il y a des gens en Occident qui se sont ingéniés à détruire leur pays, hein, donc, dont le président français, hein, qui s'amuse à détruire et à vendre à la découpe tout ce que la France a de bon dans le pays. Il vend ça à la découpe, à nos chers alliés américains, hein, qui sont aussi nos suzerains. Alors il faut bien sûr s'incliner, hein, et leur donner tout ce qu'ils désirent. Hein, donc, et bien sûr s'aligner sur toutes leurs positions qui sont forcément, parce qu'elles sont occidentales, les meilleures du monde.
D'accord. Alors, et par rapport justement à comme vous dites, c'est des gens qui s'évertuent à donner des leçons à tout le monde, mais on peut aussi se poser la question, en regardant le système démocratique dont ils se vantent, ils n'apportent pas forcément les gens qui font le travail dans le sens de servir l'intérêt général ou le bien commun. Ça en plus du fait qu'ils donnent des leçons aussi au monde entier, mais ils ne se gênent pas quand il faut violer la Constitution ou même faire une forfaiture à la Constitution, comme c'est le cas avec le traité de la Constitution européenne que les Français ont refusé à 58%, et Sarkozy a fait voter le Congrès pour le refiler, passez-moi l'expression, en suppositoire à tous les Français. Alors, est-ce que c'est pas aussi parfait? Alors, comment peut-on, par exemple, faire ça et en même temps, s'attaquer à la Russie ou à la Chine ou à l'Iran ou à d'autres pays et en les accusant de tous les maux.
Vous savez, on parle de démocratie, du modèle démocratique occidental, dans lequel, bien sûr, les votes sont parfaits, il n'y a jamais... Mais quand vous regardez bien les choses, le pouvoir en Occident n'est pas détenu par ceux que l'on voit tous les jours comme têtes de gouvernement ou autres, qui sont en général des marionnettes. Le pouvoir est détenu par des gens qui sont en arrière, qui contrôlent les médias. Il y a des gangs de milliardaires qui contrôlent les médias aux États-Unis, mais ce sont le même gang de milliardaires, hein, ou des cousins, qui contrôlent les médias en France, qui contrôlent les médias en Grande-Bretagne, au Canada ou en Australie, par exemple. Hein. Et ce sont ces gens-là qui, en fait, gouvernent la France parce qu'ils détiennent justement les médias, que les médias façonnent les esprits. Hein, c'est les médias qui vous répètent du matin au soir et du soir au matin, celui-là, il est bien, votez pour lui. Celui-là, non, horreur, ne votez surtout pas pour lui. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le peuple qui est manipulé, on va dire, par les médias, finit, et ce n'est plus de la démocratie, c'est de la manipulation, hein, par les médias qui sont eux-mêmes contrôlés par un petit gang de milliardaires. Et c'est ce gang de milliardaires qui fait la pluie et le beau temps en Occident, que ce soit aux États-Unis, en France, ou voire même dans certains pays du Sud. Hein. Ils ont réussi à...
C'est-à-dire, ils arrivent à vendre l'illusion de la liberté, voilà, et de la démocratie, mais en réalité...
Tout à fait. Hein. Tout ça, c'est du blablabla médiatique. Hein. On vous dit... Hein, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Hein, c'est exactement ça. Hein, c'est le forum de Davos. Donc tout ça, bon, est-ce que c'est vraiment de la démocratie? Bon, à chacun, bien sûr, de se faire son opinion là-dessus. Mais pour moi, la démocratie, c'est pas... Ça suppose, en amont des votes, une grande diversité des médias, c'est-à-dire l'interdiction des regroupements, des groupes médiatiques qui sont tellement puissants, qui façonnent l'opinion, ça ne devrait pas exister. Parce que ça n'est plus de la démocratie, ça s'appelle de la manipulation.
Et donc, dans ce cas-là, par exemple, prenons l'exemple de la France que vous connaissez très bien, vous êtes français, il est où le premier principe de la Constitution, gouverner par le peuple, pour le peuple?
Aujourd'hui, il est bien loin. Hein. Je dois le dire, je pense que la Ve République arrive au bout du bout. Quoi. Et toutes les républiques ont été suivies par une autre. Hein, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et je pense que la cinquième, qui a été, je crois, la plus longue, hein, de toute l'histoire des républiques françaises, elle arrive au bout de son fonctionnement. Quoi. C'est-à-dire qu'elle a dérivé tellement qu'il faudrait presque en changer.
C'est la Ve République incarnée par le général de Gaulle, c'est lui qui l'a mise sur pied. Donc le général de Gaulle n'était pas un dictateur, mais il avait l'autorité, il avait une économie dirigée, pas tout à fait, pas administrée comme au sens communiste du mot, mais une économie dirigée. Et c'est ce que justement les Russes voient dans Vladimir Poutine actuellement, qui a pu relever le pays sur le plan économique.
C'est exactement ça, et ça explique justement que Vladimir Poutine ait les scores qu'il a, alors que nos dirigeants en Occident, qui se débrouillent plutôt mal, enfin pour le peuple, hein, en tout cas, qui ne servent pas le peuple, et le peuple finit par s'en apercevoir, bien sûr, hein, ils auront des scores désastreux dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Il y a des élections qui s'annoncent en France, qui s'annoncent donc pour le 9 juin prochain, si ma mémoire est bonne. Il y a des élections qui s'annoncent au Royaume-Uni, des élections générales. Le 9 juin, ce sont les élections européennes qui seront déjà un signe. Mais à la fin de l'année, il y aura les élections générales au Royaume-Uni et puis il y aura les élections aux États-Unis. Donc là, on va voir probablement des réactions extrêmement significatives de la part des peuples qui commencent à se demander quels sont vraiment ces dirigeants qui ont été élus ou qu'ils ont élus par le passé, mais qui n'ont pas fait le boulot pour lequel ils ont été élus, quoi. Donc, je pense qu'on aura d'énormes surprises.
Une dernière chose, par rapport à ce que vous voulez de dire, justement, la question, on a l'habitude de dire que, voilà, Vladimir Poutine, qui s'évertue à dire que la Russie est sortie de la situation de marasme économique et social qu'elle a connue à la fin des années 90, mais c'est un pays qui a un PIB pas loin de celui de l'Espagne, et c'est un tout petit pays, une toute petite économie, mais en même temps, c'est-à-dire que ce qu'on aussi on cache, est-ce qu'on ne dit pas que la Russie n'est pas endettée, pas du tout endettée, ce qui n'est pas le cas des pays occidentaux qui sont endettés à des valeurs astronomiques d'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi l'aspect physique de l'économie. Ce n'est pas financier.
Oui, non. Alors, d'abord là-dessus, je voudrais vous dire que vous me dites que la Russie a le PIB de l'Espagne. Selon l'instrument de mesure, c'est pas tout à fait le cas.
Absolument.
Si vous calculez le PIB en parité de pouvoir d'achat, et c'est ça l'important, la Russie est la première puissance d'Europe devant l'Allemagne. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI maintenant. Mmh. Hein, donc la Russie n'est pas du tout en parité de pouvoir d'achat, la Russie n'est pas la dernière puissance, la dernière roue de la charrette, loin de là. Donc ça, c'est déjà un premier point. Sur le reste, bon, moi, ce que je constate, si vous voulez, alors, et c'est là qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat. Hein. Bon, en France, vous avez besoin de gros salaires en euros parce que tout coûte cher. C'est-à-dire que vous allez prendre à la pompe un litre de carburant, vous payez ça presque 2 euros pour certains produits pétroliers, comme le sans-plomb 98 ou le sans-plomb 95. Ici, en Russie, c'est pas 2 euros. Le même produit, il coûte 50 roubles, c'est-à-dire 50 centimes d'euros. Un rouble, c'est un centime d'euros. 50 centimes d'euros. C'est-à-dire, vous avez besoin d'un salaire beaucoup moins élevé pour pouvoir vivre confortablement. Les factures énergétiques sont divisées par 4 ici. Donc vous ne payez pas les mêmes choses pour les mêmes services ou pour les mêmes produits. Donc ça s'appelle la parité de pouvoir d'achat. Hein. Et donc la Russie est beaucoup mieux placée en parité de pouvoir d'achat que les gens en Occident ne l'imaginent. On s'imagine toujours un pays en voie de développement, ça n'est pas le cas du tout. Hein. Vous venez ici et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec un pays en voie de développement. Le parc automobile et fonctionne, et les rues sont encombrées, les grandes surfaces sont animées, les centres commerciaux sont pleins, bon, et bien achalandés. Et les Russes n'ont pas l'air moroses, c'est-à-dire qu'ils peuvent à peu près se payer au moins ce dont ils ont besoin. Donc, attention aux comparaisons qui... Comparaison n'est pas raison. Hein. La Russie se débrouille très bien sur le plan économique.
D'accord. Chers auditeurs, la première partie de notre entretien vient de s'achever. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Dominique de Lavarde, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions L'Afrique en marche, Zone de contact et Marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Maliba FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Dominique de Lavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Général de Lavarde, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience et vos efforts pour la seconde partie de cette émission.
Pas de problème.
Bien, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on accorde un peu d'intérêt à la dimension internationale et à la dimension géopolitique et géostratégique de cette réélection de Vladimir Poutine. Alors, la première chose, la première question que j'aimerais vous poser, par rapport à ce que Macron avait annoncé sur les questions d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Donc on a l'ensemble des membres de l'Alliance Atlantique ont réagi à ces propos, et comme le chancelier allemand Olaf Scholz qui a affirmé qu'aucun État européen ou membre de l'OTAN n'enverrait de troupes en Ukraine, même sans de cloche à Londres, Rome ou Madrid. Et même le secrétaire général de l'OTAN aussi a confirmé qu'il n'y aura pas d'hommes qui seront envoyés. Mais dans tout ça, même les États-Unis, qui sont les meneurs, les premiers meneurs de cette situation en Ukraine contre la Russie, ont aussi dit que niet, il n'y aura pas un seul boy américain qui serait envoyé à cette guerre au casse-pipe en Ukraine. Bien, alors dans le contexte de la réélection de Vladimir Poutine pour un nouveau mandat de 6 ans, comment voyez-vous l'évolution de la situation en Ukraine et des relations entre l'Europe et la Russie?
Oh, là, si vous voulez, Vladimir Poutine, d'abord, la réélection de Vladimir Poutine est importante pas seulement pour la Russie. Elle est importante, par exemple, pour les BRICS, puisque ne pas oublier que Vladimir Poutine est le président en exercice des BRICS. Hein, donc, c'est bien de ne pas changer au milieu du guet un président en exercice des BRICS. Mais c'est également important pour le monde entier, l'affaire, parce que Vladimir Poutine s'est engagé à aller au terme de son opération spéciale, et je pense qu'il ira sereinement, tranquillement, et que cette opération spéciale se terminera tout simplement par la victoire de la Russie, tout simplement parce que la balance des potentiels de chaque camp est en faveur de la Russie, penche largement en faveur de la Russie. Donc, qui a beaucoup plus d'atouts en main pour terminer victorieusement cette affaire. Alors, comment voir l'avenir? Moi, je pense que aujourd'hui, l'affaire d'Ukraine n'est pas seulement, je l'ai dit, militaire, elle est aussi économique, et elle n'est pas seulement locale, c'est-à-dire en Europe de l'Est, elle est planétaire. C'est un combat entre la multipolarité, et c'est devenu un combat entre la multipolarité et l'unipolarité sous hégémonie US. Bon, ce combat-là, il est en train d'être gagné progressivement, tranquillement, par la Russie. Tout simplement parce que les économies occidentales ne vont pas pouvoir suivre longtemps. Les économies occidentales sont en difficulté, Poutine le sait d'ailleurs, et c'est, j'irais presque jusqu'à dire qu'il joue la montre en Ukraine, il fait durer le plaisir juste pour voir les économies occidentales souffrir et peut-être même s'effondrer demain. Donc on est en difficulté, hein, l'Allemagne est en difficulté, et si l'Allemagne est en difficulté, comme c'est le moteur de l'Europe, l'Europe est en difficulté, et la France derrière est en difficulté. Quand on voit ne serait-ce que le budget prévu pour la France en 2024, c'est une catastrophe, hein, encore avec...
Quel budget ?
Un déficit budgétaire, surtout. Oui. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est le déficit, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas en mesure, avec les recettes,
de financer le
fonctionnement de l'État France. Hein, donc, aujourd'hui, en tout début d'année, le déficit budgétaire était prévu à 147 milliards de dollars. Il ne me surprendrait pas que ce déficit, en fait, à la fin des fins, c'est-à-dire à la fin de l'année, soit de l'ordre de 200 milliards et batte le record de l'année dernière, qui était un record absolu, hein, de 167 milliards de dollars de déficit. Donc, quand on cumule les déficits comme ça, le pays ne va pas bien, le pays s'endette, plonge dans la dette avec des taux d'intérêt qui augmentent de plus en plus. Plus le pays est endetté, plus les taux d'intérêt augmentent et plus on est en difficulté. Le budget, le simple paiement des intérêts de la dette constitue pour 2024 le premier budget de l'État. Ou pratiquement le premier budget de l'État. Hein, donc, y a un moment où tout cela va devenir insupportable et va mettre l'Europe, enfin la France en difficulté. Et ça, Poutine le sait. Et Poutine n'a qu'à attendre. Il attend que les Européens continuent de s'épuiser à envoyer des munitions, s'épuiser à vider leur stock de matériel, s'épuiser à recréer une industrie d'armement qui n'est pas encore sur pied et qui n'est pas prête encore de pouvoir rivaliser.
Il projette même, selon les déclarations de Macron et d'Olaf Scholz, de produire en Ukraine.
Oui, c'est ça. Mais quand ? Demain, après-demain, bon, on verra tout ça. Mais bon, pour être sérieux, je ne pense pas que l'affaire ukrainienne va encore durer au moins quelques mois. Je pense que Poutine va d'abord compter les points tranquillement. Il va regarder comment se passent les élections européennes, il va regarder comment se passent les Jeux Olympiques, il va regarder comment se passent les élections américaines. Et je pense qu'en fin d'année, on aura peut-être une fenêtre d'opportunité, selon les résultats de telle ou telle élection, on aura peut-être une fenêtre d'opportunité pour essayer d'avoir une paix.
C'est très important ce que vous venez de développer, général de Lavarde. Donc moi, la question qui me vient à l'esprit, on a une reconduction avec un score absolument extraordinaire de Vladimir Poutine, ce qui veut dire que c'est un signal au monde entier que le peuple russe a choisi et la stabilité et l'unité et la continuité.
Oui.
Est-ce que ça ne pourrait pas quand même
non, mais
susciter
bon,
un minimum de
réflexion,
de réflexion et de raison pour se dire que on pourrait bien trouver un autre moyen que celui de la guerre pour régler les problèmes.
Les gens qui gouvernent vraiment, je ne parle pas des marionnettes qu'on a en face de nous, hein, qui prétendent faire la pluie et le beau temps. C'est pas eux qui font la pluie et le beau temps, c'est ceux qui sont derrière. Ceux qui sont derrière, ce sont ceux qu'on appelle les néoconservateurs. Hein. Ce mouvement de néoconservatisme est parti des États-Unis dans les années 60, à la fin des années 60. Et il a commencé à s'emparer du pouvoir, d'abord en Amérique, puis à essaimer en Europe avec un peu tous les pays. Donc ce sont ces gens-là. Et ces gens-là sont des gens qui sont jusqu'au boutistes. Ils sont tellement arrogants, dominateurs et sûrs d'eux-mêmes que ils se croient les maîtres du monde et ils pensent qu'ils le seront, hein, que nul ne peut leur résister. Et ils sont jusqu'au boutistes. Donc ces gens-là, je ne pense pas qu'ils réfléchissent au-delà de leur certitude. Ils sont bardés de certitude et ils iront jusqu'au bout, y compris jusqu'au suicide. Suicide qu'on a connu dans un lointain passé à Masada, par exemple. Mm-hmm. C'est ce que j'appelle, moi, l'esprit Masada. Ces gens-là ont l'esprit Masada, c'est-à-dire qu'ils préfèrent, à la limite se suicider plutôt que de se rendre. Et plutôt que d'admettre la défaite.
C'est-à-dire, c'est un peu Hitler dans son bunker.
Alors que
l'opération Steiner a complètement foiré.
On est dans le bunker, hein, à manipuler ces gens-là. Ils manipulent des unités qu'ils n'ont plus, des atouts qu'ils n'ont plus. Hein, ils continuent désespérément comme.
Mais dans ce cas-là, et ce que vous venez de dire est encore une fois très important, parce qu'il est très visible que ceux qui dirigent l'Europe, ils sont sous l'influence des néoconservateurs. Donc, les Européens, eux, ils ne peuvent rien faire contre la Russie. Ils sont en train de se désindustrialiser au profit des États-Unis, qui les ont coupés de l'énergie russe et qui sont en train de pousser les industriels à partir aux États-Unis. Il est clair, dans ce cas, en tout cas pour n'importe quel observateur de l'extérieur, que si les Européens tiennent parole pour continuer à soutenir l'Ukraine, la seule façon de le faire, c'est d'acheter des armements aux États-Unis. Donc, pour l'instant, c'est-à-dire que c'est un suicide collectif sur l'autel des intérêts américains.
On en est là. Oui. Ces gens-là sont, ils n'ont pas de frontières. Hein. Donc, ce sont des transnationaux. Hein, qui, pour eux, leur terrain d'action, ça n'est pas la France, ça n'est pas l'Europe, ça n'est pas l'Amérique, c'est le monde. Hein. Donc, ces gens-là sont ce qu'on appelle les mondialistes, hein, les globalistes. Les néoconservateurs, hein, ce sont les mêmes, hein, c'est ces gens-là qui gouvernent, et donc il ne faut pas compter sur eux pour revenir en arrière. Mais à mon avis, Vladimir Poutine a pleinement anticipé tout ça, c'est un joueur d'échecs, il a 20 ans d'expérience, il connaît l'Ouest, l'Occident global dans sa totalité, depuis 20 ans. Il l'a vu agir, il a vu ses méthodes, il connaît tout. Donc, il a deux coups d'avance dans cette grande partie d'échecs et il est en train de laisser venir et de laisser s'enfoncer, hein, par des mesures contre-productives, par des mesures boomerang. Il est en train de laisser s'enfoncer l'Occident et on va bien voir jusqu'où tout cela va aller. Mais je ne pense pas que ça aille bien loin.
D'accord. Alors maintenant, passons au sud global, c'est, disons, l'espoir et le futur. Alors, partout dans le sud, les pays font la queue, c'est le cas de le dire, pour rejoindre les BRICS multipolaires et l'avenir sans hégémonie qu'il promet, en tout cas pour l'instant. Et ce regain d'intérêt est devenu un thème de discussion incontournable au cours de cette année cruciale de la présidence russe de ce qui est pour l'instant les BRICS 10, c'est-à-dire depuis que l'Argentine s'est retirée. Alors on a de grands pays comme l'Indonésie, l'Algérie, le Nigeria font partie déjà des premiers groupes de candidats susceptibles d'adhérer. La même chose pour le Pakistan, le Vietnam et même le Mexique qui a une frontière commune avec les États-Unis, ça ne sera pas très facile. Disons, tout peut arriver, même si les probabilités... Mais on verra comment, comme vous dites, à juste titre, on verra comment les choses vont évoluer. Mais aussi, il y a la nouvelle candidature qui est en marche, c'est celle du Yémen. Yémen, qui bénéficie d'un large soutien de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Alors, comment voyez-vous la suite de cette dynamique dans le contexte de la réélection de Poutine et de la présidence russe des BRICS en 2024, qui tiendra son sommet en octobre dans la ville russe de Kazan?
Et moi, si vous voulez, si Vladimir Poutine souhaite enfoncer le clou, c'est-à-dire mettre l'Occident encore plus en embarras, je pense que Poutine va poursuivre, sans aller trop loin, mais va poursuivre l'élargissement des BRICS en incluant 3, 4, peut-être même 5 nouveaux États, hein, pour montrer à l'Occident que, bah, que c'est fini, quoi. Après ceux de 2023, ceux du 1er janvier 2024, il y aurait donc, au 1er janvier de l'année prochaine, en 2025, il y aurait donc 5 nouveaux pays, et ça ne serait plus les BRICS 10, mais les BRICS 15, ou les BRICS 12, ou les BRICS 13, enfin, peu importe. Mais j'imagine mal qu'il n'y ait pas un élargissement prévu à Kazan en octobre prochain pour l'année 2025. Donc ça, c'est le premier point pour les BRICS. Le deuxième point pour les BRICS, je pense que la Russie va profiter de sa présidence pour accélérer tout ce qui est dédollarisation. La dédollarisation, qui est l'instrument, le dollar, c'était l'instrument de domination de l'Occident. S'il y a dédollarisation, il y aura perte d'influence de l'Occident. Et je pense que Poutine va faire tout pour essayer de commencer à mettre en œuvre cette fameuse monnaie des BRICS ou ce fameux système BRICS qui permettra de fluidifier les échanges entre États appartenant membres des BRICS. Donc c'est les deux domaines dans lesquels je vois l'affaire se faire. Un autre domaine de domination qui est que l'on voit un peu partout aujourd'hui dans le monde, c'est la langue. Ne pas oublier que la langue anglaise est aujourd'hui la langue, on va dire, presque mondiale. Et je vois qu'en Russie, notamment dans l'Est russe, on commence à réduire la part de l'anglais et à mettre du chinois à la place. On remplace l'anglais par le chinois. Donc ça, c'est aussi significatif que la dédollarisation, la désanglicisation. On va enlever la langue qui est... Les deux outils d'hégémonie, c'est cette langue que tout le monde parle dans le monde, et c'est le dollar. Si on enlève ces deux outils, c'est fini. L'Occident, et en tout cas l'Occident anglo-saxon, n'existera plus, en tout cas au niveau où il se situe encore aujourd'hui.
Bien. Alors, et justement, vous venez d'évoquer le sujet qui est très important. Alors, la présidence russe aura bien sûr les bras chargés au cours des prochains mois, comme vous venez de l'évoquer, non seulement en abordant le spectre géopolitique des crises actuelles, mais surtout en matière géoéconomique. Alors, une réunion ministérielle cruciale en juin, dans 3 mois à peu près, devra définir une feuille de route détaillée jusqu'au sommet de Kazan 4 mois plus tard, donc vers le mois d'octobre. Alors, le nouveau gouvernement russe, apparemment, selon nos informations en tout cas, ne prêterait serment que début mai, et on s'attend largement à ce qu'il n'y ait pas de changement substantiel au sein du ministère russe des Finances, de la Banque centrale, du ministère des Affaires étrangères et parmi les principaux conseillers du Kremlin. Alors, la semaine dernière, c'est là où j'en viens à une chose importante, la semaine dernière, le principal conseiller du Kremlin, Yuri Ushakov, a annoncé que les BRICS travailleraient à la mise en place d'un système de paiement indépendant, basé sur les monnaies numériques et la blockchain. Donc, là, ça devient le moins qu'on puisse dire très sérieux, parce que non seulement ça ne sera pas fait
Du jour au lendemain,
mais utiliser les monnaies numériques, les crypto-monnaies, les monnaies numériques et la blockchain, c'est un moyen d'accélérer ça énormément. Alors, cela nous amène au dossier géoéconomique clé de ce début. Les BRICS, à l'avant-garde donc, du contournement du dollar américain, dans la finance internationale, avec la blockchain et la monnaie. Est-ce que ça, et même il y a l'idée de l'utilisation des DTS, est-ce que ce ne sera pas la porte ouverte, notamment pour le sud global, de mettre un terme à la domination occidentale? Alors, d'autant plus que, sur le plan physique, c'est-à-dire pour faire tourner leurs économies, ils ont plus de relations avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, qu'ils en ont avec l'Europe ou les États-Unis.
Mais bon, tout ça prendra, comme vous venez de le dire, hein, ça prendra beaucoup de temps. Hein. C'est pas demain la veille que le dollar sera exclu du monde de la multipolarité. Hein. Mmh. Ça va rester encore une monnaie puissante pendant un certain temps, mais c'est certain que tous les efforts qui sont faits, à chaque fois que le dollar recule, l'Amérique s'affaiblit. Et je pense que il faudra encore peut-être 5 ans, 10 ans, hein, pour que venir à bout de tout ça, sauf si, bien sûr, une crise de grande ampleur, une crise économique de grande ampleur vient secouer l'Amérique, quoi. Ce qui n'est pas exclu du tout. C'est pas exclu du tout.
C'est-à-dire, notamment, lorsqu'on voit le taux d'endettement dépasse les deux... la dette globale, qui dépasse les 220 000 milliards de dollars, quand on prend toute la dette globale, plus les actifs d'engagement.
Les engagements.
Ouais. C'est quelque chose d'absolument
phénoménal,
abyssal.
Abyssal, mais pour l'instant, ça a tenu. Ça tiendra de moins en moins. Hein. Après, faut savoir jusqu'où ça tiendra. Et il faut, pour que ça s'écroule, il faut que l'ensemble du monde cesse d'utiliser ça. Et on n'est pas, c'est pas encore demain la veille. Hein. Il faudra beaucoup de temps pour que les pays se résolvent complètement à abandonner le dollar. Il y a même au sein des BRICS, hein, des gens qui veulent pas aller trop vite, hein, comme l'Inde par exemple, hein, qui est un grand pays aussi. Et même la Chine, elle souhaite pas aller trop vite. Elle a encore des avoirs. Elle a encore des avoirs en dollars. Bon, elle s'en débarrasse petit à petit, mais elle voudra pas accélérer le rythme. Mm-hmm. Chaque chose en son temps. Donc, c'est une affaire, on va dire, de long terme, non pas de court terme. Il y aura pas d'effondrement complet de l'économie US, normalement, en un an, mais il faudra... On y arrive.
D'accord. Ça fait bon. Alors maintenant, concernant l'Afrique. L'Afrique a vécu sous domination occidentale pendant très longtemps, depuis les indépendances, l'exploitation des matières premières, la présence militaire étrangère, et le franc CFA. Et alors, il y a deux crises qui se sont succédées, celle du Covid-19 et celle... Donc, de la situation actuelle en Ukraine suite à l'opération spéciale russe. Les Africains, dont quasi leur totalité, ont compris que l'économie que l'Occident entretenait, en réalité, c'est juste une illusion. Parce que il s'est avéré qu'il peut même pas produire les masques pour se protéger d'une pandémie. Et puis, avec l'opération spéciale, même la nourriture, parce que le blé, c'est l'Ukraine et la Russie, les engrais, c'est l'Ukraine et la Russie, et d'autres. Donc là, ils s'orientent complètement vers l'Est. Et moi, ce qui a attiré mon attention, d'abord le vote aux Nations Unies, il a beaucoup de présence lors de ces élections de l'Afrique. Comment voyez-vous la chose dans ce changement par rapport à l'Afrique? Comment voyez-vous la place de l'Afrique dans ça?
L'Afrique, elle va d'abord se libérer de ses chaînes, les chaînes qu'elle pouvait encore avoir avec l'Occident, ces chaînes qui leur dictaient leur manière de se comporter, leur manière de gouverner, leur manière... Tout était dicté par l'Occident. Bon, maintenant, ils vont pouvoir respirer un peu. On a vu récemment le porte-parole du gouvernement du Niger faire une déclaration extraordinairement ferme, demandant aux Américains de se retirer. Hein, après que les Américains soient arrivés en conquérant...
Les troupes américaines qui sont stationnées au Niger.
Qui sont encore stationnées au Niger. Hein. Donc on voit bien que que l'Amérique même ne fait même plus peur au Niger. Hein, donc ça, c'est nouveau. Donc l'Afrique se débarrasse de ses chaînes. Elle a éjecté, on va dire, la France. Hein. La France-Afrique, c'est quasiment du passé. Il reste encore quelques vestiges, mais ça ne durera pas. Hein, elle est en train de se séparer aussi de l'Amérique et d'aller vers la multipolarité. L'Afrique prend son destin en main, mais c'est pas terminé, vous savez. Et cette année, il va y avoir des élections en Afrique du Sud. Bon, il y a le candidat sortant qui va probablement se représenter, bien sûr. Hein, mais il y a également un candidat d'opposition qui est soutenu massivement par l'Occident. Évidemment, l'Occident cherche à placer ses pions. Et l'Occident aura des médias, aura tout ce qu'il faut pour essayer de promouvoir ce nouveau candidat qui a clairement, qui a même été jusqu'à dire qu'il se retirerait des BRICS.
L'Afrique du Sud,
comme l'Argentine. On comprend hein, qui est derrière Milei et qui a soutenu Milei, qui détient les médias en Argentine et qui a promu la candidature Milei. Donc ça, on le sait et on le voit. Après, il faudra voir ce que ça donne en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est pas gagné.
Vous me faites rappeler l'expression de Benjamin Franklin, qui est le père spirituel de la Révolution américaine, en sortant de la salle où ils ont rédigé la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Donc, il y a une femme qui lui pose la question, « Monsieur Franklin, qu'est-ce que vous nous avez préparé ?» Et lui, il répond, « Une république, madame, si vous êtes capable de la sauvegarder. »
Ouais, voilà. Si vous êtes capable de la sauvegarder, ouais, c'est ça. La multipolarité, va falloir la sauvegarder. Voilà. Et c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué, parce que le naturel revient parfois, et il y a toujours quelqu'un qui veut prendre le dessus. Alors là, pour l'instant, ceux qui veulent prendre le dessus, on l'a dit, c'est le monde de la finance, hein, le monde des milliardaires. Ces gens-là sont puissants, ils sont organisés. Bon, ils souhaitent évidemment avoir toujours du pouvoir dans le monde avec leur organisation et leurs milliards. Pour l'instant, ils ont plutôt réussi. Ils ont plutôt réussi en Amérique, ils ont plutôt réussi en France, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie. Hein, c'est ce que j'appelle le gang des six, hein. En rajoutant, bien sûr, l'État d'Israël. Bon, ces gens-là ont plutôt réussi. Reste à savoir comment l'affaire va se terminer. Pour l'instant, elle n'est pas terminée. Hein. Le bras de fer continue, les événements se poursuivent en Ukraine, les événements se poursuivent aussi à Gaza.
Gaza,
c'est encore une affaire qui précipite un peu le basculement du monde. Hein. Le monde bascule. Un peu grâce à... Les Gazaouis auront joué un rôle très important dans la prise de conscience des citoyens du monde sur ce qu'est vraiment cet hégémon unipolaire US. On a tous pu voir que cet hégémon a pratiqué le deux poids deux mesures avec une Russie qui est condamnée aux moindres morts. On le reproche amèrement à la Russie, mais par contre, Israël peut tuer 30 000 ou 32 000 personnes, dont la moitié d'enfants. Ça ne pose aucun problème de conscience à l'Occident, prétendument moral, prétendument le
défenseur des droits de l'homme.
Ouais, défenseur des droits de l'homme, ça ne lui pose aucun problème. Donc on voit bien, le monde entier s'est aperçu, le monde entier, le Sud global en particulier, s'est aperçu de la duplicité de l'Occident global, on va dire, et cet Occident, c'est-à-dire les US, US OTAN, on va dire, hein, US-UE OTAN, AUKUS, hein, qui fait partie de ce monde-là, il a perdu sa crédibilité dans cette affaire de Gaza à un point que les gens ne peuvent pas imaginer. Le monde entier a regardé effaré ce qui se passait là-bas, et M. Netanyahou est responsable aujourd'hui de l'image de l'Occident tout entier. C'est lui qui donne cette image d'un Occident pervers, pratiquant le deux poids deux mesures, ceci
soumis.
N'est plus... Hein, soumis aussi à l'hégémon US, donc ceci n'est plus tenable.
D'accord. Donc, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général Dominique Delavarde, je vous remercie pour cette, pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous et à vos auditeurs qui m'auront écouté jusque-là.
Merci. C'était le général Dominique Delavarde, ancien chef situation renseignement guerre électronique à l'état-major interarmée de planification opérationnelle de l'armée française à la retraite. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.